Bienvenue au
11e
épisode du podcast des nous.
Podcast qui fait de vous des nous.
La musique que vous venez d'entendre a été composée par CG Musi, un logiciel gratuit de génération de musique programmé par Massiège Miedrziki.
Bienvenue au podcast des nous, je suis Laurent.
Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca. Discutez sur le forum. Le podcast danou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com.
Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man.
Cette semaine, je vais pas tout à fait suivre ma résolution de parler d'un seul sujet par semaine. Mais, je vais parler de plusieurs films qui sont liés ensemble. J'ai récemment décidé de me faire un genre de festival Ghibli. Voir tous les longs métrages du studio en ordre chronologique. À la fois revoir ceux que j'avais déjà vus et voir ceux que je n'avais jamais vus. Cette envie a sans doute été causée par l'interruption du département de production en 2014. Maintenant, on peut affirmer voir l'intégralité de leurs films, en espérant qu'un jour ils relanceront la production. Peut-être en coupant dans les coûts, comme font les autres studios. Ce qui ne signifie pas nécessairement qu'ils sont de mauvaise qualité. Il suffit de penser au film de Satoshi Kon. Je vais parler brièvement de chacun des films en commençant par une sélection de pré-Ghibli, les dessins animés de Takahata et Miyazaki qui ont précédé la création du studio Ghibli. Isao Takahata et Hayao Miyazaki se sont connus lors de leur début au studio d'animation Toei. Les deux étaient d'argent syndicalistes. De la fin des années 50 aux années 70, la Toei a fait une vague de longs métrages d'assez grande qualité pour devenir une sorte de Disney de l'Asie. Mais la production de séries pour la télévision avait pris une place de plus en plus importante au sein du studio. En 1968, Takahata y a eu l'occasion de réaliser son premier film avec Miyazaki travaillant au design et au scénario, Russe Prince du Soleil. Cet excellent divertissement pour la famille est un film de très grande qualité, malgré un échec commercial. Une belle aventure pour tous, dans la grande lignée des films familiaux, avec une très belle animation et un visuel qui peut possiblement laisser préfigurer les futurs films Ghibli, mais d'une traduction, ma foi, assez différente. Pour le moment, le film m'a fait un peu penser aux mystérieuses cités d'or, de par le feeling, le type de personnage. Peut-être des gens ayant travaillé sur ce film auront par la suite travaillé sur cette série. Ce très grand film, qui mériterait d'être reconnu comme un classique, mériterait bien un 4. Pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents épisodes ou qui ne s'en souviennent pas, je donne une note sur 5. 5 étant un chef-d'œuvre, 4 étant une œuvre qui réussit parfaitement son objectif, 3 étant un divertissement honnête, 2 étant une œuvre moyenne, 1 étant une œuvre mauvaise et 0 étant une nullité absolue, 4 sur 5 c'est une très 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 bonne note. Après l'échec du film, Takahata devra démissionner et, bien vite, rejoint par Miyazaki et sans doute quelques collaborateurs, je rejoindrai divers autres studios où ils travailleront sur diverses séries et films dont les Panda Go Panda, Heidi et Conan Future Boy. Miyazaki aura finalement l'opportunité de réaliser son premier film en 1979 avec le second film animé consacré au personnage de Lupin III, Le Château de Cagliostro. Aussi bon soit ce film et proche des futurs Ghibli, il n'est certes pas irréprochable. Il est notamment assez plus fidèle à l'esprit de Lupin III. Ce film est plus un film de Miyazaki qu'un film du personnage. la vision de Miyazaki est plus romantique que l'humour bête et méchant et nettement plus adulte de Monkey Punch. On est presque plus proche du personnage d'Arsène Lupin que de son fameux descendant. Dans ce film fort sympathique et tout de même amusant, on suit les aventures de Lupin III qui, cherchant l'origine de la fameuse, d'une fameuse fausse monnaie, va se retrouver au milieu d'une bien intrigante affaire où il va porter secours à une jeune demoiselle en péril. Il sera bien sûr entouré de toute sa galerie de personnages habituels. Pour ceux qui ne connaissent pas Lupin III, celui-ci serait le descendant du fameux personnage littéraire français d'Arsène Lupin. Comme son ancêtre, il est un grand cabrioleur, mais il n'est pas vraiment un gentleman, du moins normalement. Il est plutôt un pervers, ce que l'on peut voir dans une seule scène de ce film où il est plutôt, en général, un gentleman. La série Lupin III se veut une comédie. Lupin est entouré de quelques alliés. Son plus fidèle est l'expert au tir Jigen. Il est aussi accompagné par Goemon, descendant d'un fameux épéiste de l'histoire japonaise. Goemon peut trancher à peu près tout et n'importe quoi. Personnage plutôt anachronique, de par son attitude et habillement d'une autre époque. Il y a aussi Fujiko Mine, qui parfois les aide, mais souvent leur dérobe leur butin, profitant de ses charmes et du faible de Lupin pour celle-ci. Dans ce film, par contre, elle se débrouille par elle-même plutôt que d'user de ses charmes, ce qui n'est pas tellement surprenant, Miyazaki étant, après tout, plutôt féministe. Lupin est aussi poursuivi par l'éternel Zenigata, un policier descendant d'un fameux personnage détective japonais. Malgré que ce film ne soit pas fidèle, il est tout de même un excellent divertissement avec notamment sa fameuse course-poursuite en voiture vers le début du film. Je lui donne donc une note de 3. Goshu le violoncelliste est un film de Takahata sorti en 1982. Petit film tranquille à propos d'un musicien inspiré par sa rencontre avec divers animaux qui viennent le visiter durant la nuit. Film fort sympathique et intéressant, mais pas particulièrement passionnant, ce film reste tout de même plutôt amusant et se mérite un 3. Surtout, il y a eu en 1984 le fameux Nausicaa, adapté par Miyazaki d'après sa propre série de mangas, qui ne sera terminée que bien des années plus tard. À l'origine, l'histoire avait été proposée comme projet de film et refusée. Miyazaki s'est mis à la faire sous forme de série de mangas. Le succès du manga a entraîné l'intérêt de l'anime. Produit par Takahata et réalisé et écrit par Miyazaki, ce film légendaire nous relate les aventures de la princesse Nausicaa de la Vallée du Vent, qui vivait au sein de son peuple, de son petit village fort sympathique, dans un futur post-apocalyptique où la société telle que l'on connaît a disparu et où poussent d'étranges forêts où vivent des insectes géants. Tout se passait bien dans la vallée, jusqu'à ce que s'écrase un engin volant portant une mystérieuse cargaison et jusqu'à ce qu'une armée vienne envahir la vallée pour récupérer cette cargaison qui serait nul autre que l'un des géants ayant causé la fin du monde qui se trouve endormi. Ce chef-d'œuvre est mon film préféré du cinéaste malgré une animation peut-être inférieure aux futures productions Ghibli, mais tout de même de très haut niveau, une musique qui fait pas mal années 80, ce qui n'est pas un défaut pour moi. Je donne donc à Nausicaa un 5. Le succès du film a entraîné la création de Ghibli pour faire un autre film avec à peu près la même équipe. Le Château dans le ciel, sorti en 1986. Ce film d'aventure pour toute la famille nous raconte les aventures de deux enfants, un jeune mineur et une fille tombée du ciel en flottant tranquillement grâce à un bijou mystérieux dont veulent s'emparer l'armée d'une nation et des pirates de l'air. Celui-ci mènerait à la légendaire cité volante de Laputa, un extraordinaire divertissement pour toute la famille qui va réussir à enflammer son public avec son aventure, son humour et son sentiment, dont le seul reproche qu'on peut lui faire, si c'en est un, est d'avoir un réel vilain, contrairement à tous les autres films du studio. Je donne donc au Château dans le ciel une note de 4. Les deux cinéastes ont ensuite chacun réalisé un film en même temps. Le tombeau des Lucioles de Takahata et Mon voisin Totoro de Miyazaki. Le premier est sans aucun doute le plus grand film sur la survie des enfants durant la guerre. Pour ceux qui se rappellent de ma chronique sur Barfoot Gen, J'avais déjà parlé du tombeau des Lucioles, qui, comme ce dernier, est un chef-d'œuvre, peut-être même encore plus, qui se mérite bien sûr lui aussi un 5. Il est impossible de voir ce film sans pleurer, à moins d'être un robot. Mon voisin Totoro est quant à lui un film pour les tout-petits, mais que les adultes aussi peuvent apprécier de par sa grande qualité, sa poésie et son contexte. J'ai entendu plusieurs personnes dire que c'était leur Ghibli préféré. Deux petites filles viennent s'établir dans une nouvelle maison en campagne avec leur papa, alors que leur maman est à l'hôpital. Les deux fillettes vont rencontrer de jolis monstres poilus, dont un géant, Totoro, le protecteur de la forêt. Ce film fort mignon et sympathique se mérite bien au moins un 3, et même fort possiblement un 4. Miyazaki nous berce ensuite avec Kiki la petite sorcière, un film qui s'adresse avant tout aux filles, surtout les pré-adolescentes et jeunes adolescentes, mais qui peut intéresser tout le monde. Paraît-il que ce film fut inspiré par une journée que Miyazaki a passée à observer les jupes des filles s'envoler au vent. Dans ce film, Kiki a 13 ans, l'âge pour les jeunes sorcières d'aller vivre par elles-mêmes pour un an, seule avec son chat noir parlant, ceci faisant partie de leur entraînement de sorcellerie. Kiki va se partir un commerce de livraison en balai volant. Elle va aussi rencontrer un petit garçon qui sent bien l'aimer, un couple de pâtissiers qui vont lui offrir l'hébergement en échange d'un peu d'aide, et une jeune artiste peintre. Un très beau film sur le fait de grandir, qui se mérite lui aussi un 4. Takahata nous offre Only Yesterday, un film à propos d'une femme qui va prendre ses vacances sur une ferme. Ce film nous raconte un peu sa vie à la ferme, mais aussi des souvenirs de lorsqu'elle avait 10 ans qu'elle se remémore. Lorsque j'avais déjà vu ce film auparavant, il m'avait semblé sympathique mais moyen. Après l'avoir revu, je me demande comment j'ai pu ne pas ressentir plus. Je devais avoir un cœur de pierre ou plus sérieusement, ne pas être dans le bon mood. Ce film est sans doute plus pour les adultes que pour les enfants de par sa tranquillité, sa thématique, son esprit. Mais il peut être vu par tous et est d'une grande richesse émotionnelle, un autre chef-d'œuvre signé Ghibli auquel je donne la note de 5. Porco Rosso serait sans doute l'idée du cool par Miyazaki. Un homme ayant la forme d'un cochon, Porco Rosso est chasseur de primes et poursuit les pirates de l'air au-dessus de la mer Adriatique. Bien évidemment, ce n'est pas tout ce qui se passe, il a son passé, ayant déjà fait la Première Guerre mondiale, et son ancienne relation avec une jolie femme chanteuse, son avion aura besoin d'être construit, une fille mécano va vouloir l'accompagner, etc. Cet excellent divertissement pour toute la famille enchantera les adultes de par son sujet, son style et son propos, et les enfants de par son humour et son aventure, bien que le public cible soit sans doute plus les adultes. En plus, Jean Reno fait la voix de Porco Rosso dans la version française, donc un 3. C'est un divertissement fort sympathique. Le téléfilm Ocean Waves a été créé pour donner l'opportunité à la jeune génération engagée avant Only Yesterday de prendre le contrôle créatif. Ce film réalisé par Tomomi Mochizuki, malgré un budget qui se voulait plus petit pour la télévision, demeure dans la tradition du studio d'une grande qualité technique. Peut-être à budget un peu plus bas que les autres productions du studio, mais toujours d'un excellent niveau, surprenant pour un téléfilm. Un jeune homme nous relate ses souvenirs de l'école secondaire, à peine quelques années plus tôt, de ses relations avec son meilleur ami et une fille qui venait d'être transférée depuis Tokyo. Ce film fort sympathique, plein de nostalgie et plutôt mignon, nous offre un très bon moment, donc un 3. Pompoko. Takahata nous prend ce film sur un groupe de Tanuki, un genre de raton laveur japonais, essayant de combattre les plans humains de développement dans leurs montagnes de la région de Tokyo, notamment avec leur capacité de transformation. Le film est plutôt amusant avec les Tanuki qui pensent souvent à s'amuser et faire la fête. Il y a une certaine profondeur sans que le message ne nous soit trop frappé sur la tête, mais le film me semble beaucoup trop ancré dans la culture japonaise pour être apprécié à sa juste valeur en Occident. Même pour mon propre goût, l'utilisation d'un narrateur omniprésent n'aide pas à aimer ce film. Le film se révèle donc plutôt intéressant, pertinent et par moments amusant, mais me semble en général rester plutôt moyen et un peu long, donc un 2. Si tu tends l'oreille, l'unique film de Yoshifumi Kondo que Takahata et Miyazaki envisageaient comme leur nouvelle vague, un potentiel successeur. Hélas, décédé peu de temps après. Une fille rêveuse, romantique, en suivant un chat ou son intérêt pour la bibliothèque, va notamment rencontrer un gars dont elle va tomber amoureuse, et cette rencontre va la pousser à se mettre à l'épreuve d'un point de vue créatif. Certes pas un chef-d'œuvre, ce film aurait pu être un peu plus poli, quoique ce n'est pas nécessairement un défaut, comme le dit le film lui-même. Ressentant peut-être un peu trop l'héritage de Miyazaki et Takahata, cela n'empêche ce film d'être fort sympathique, mignon tout plein et significatif. Un très très bon moment à passer. 3. Princesse Mononoke. Miyazaki nous crée un film assez similaire à Nausicaa, mais aussi assez différent. Comme son prédécesseur, Princesse Mononoke nous propose une grande aventure épique tout en faisant preuve de retenue, de délicatesse, de profondeur. Ce film s'adresse lui aussi à un public d'enfants plus âgés ou sinon d'adultes, les plus petits risquant d'être effrayés. Mais ce film ne nous présente pas un hypothétique futur lointain, mais un mythique passé. Il se déroule durant l'ère féodale japonaise, quoiqu'à l'époque où les armes à feu étaient entrées au Japon, mais aussi une époque fantaisiste avec la puissance de la nature, la présence des dieux, des animaux géants. Ce film nous relate l'histoire d'un jeune homme maudit après avoir vaincu un démon attaquant son village. Celui-ci va se mettre à voyager vers les terres d'où vient le démon en portant un regard sans haine. Il y découvrira les affrontements entre les dieux de la forêt et les humains, d'un village minier qui construit des armes à feu. Il y verra la princesse Mononoke, une jeune femme élevée par les loups, la beauté de la forêt et la vie des hommes. Bien, ce grand film épique, bien que clairement pacifiste, est aussi écologiste et plutôt féministe, bien sûr, fait dans la délicatesse, la subtilité et la profondeur. Un autre chef-d'œuvre qui se mérite un 5. Mes voisins, les Yamada. Pour ce film, Takahata se base sur une série de strips comiques japonais à propos d'une famille typique de la classe moyenne. Le film semble pas mal suivre la structure de la BD, puisqu'il est basiquement une suite de scénettes humoristiques disjointes. En résulte un film plutôt sympathique et par moments amusant, mais très anecdotique, ni réellement passionnant. Tout de même mieux, je crois, que les dessins animés de Charlie Brown. Le film se démarque de par son style visuel. L'utilisation des couleurs dans un style aquarelle est intéressante. Le film réussit à avoir une animation intéressante pour le style graphique, mis à part quelques plans qui sentent un peu trop l'utilisation de l'outil informatique, sympathique, mais sans plus. Sans doute trop long pour ce qu'il propose. Je lui donne donc un 2. Takahata a ensuite pris sa retraite. Le voyage de Chihiro. Miyazaki nous propose un film plutôt différent de ce à quoi il nous a habitués, insistant notamment un peu moins sur ses morales habituelles, ce qui ne signifie bien sûr pas que ce soit absent. Chihiro va devoir travailler dans un bain public pour les esprits après que ses parents aient été transformés en cochons. On assiste tout au long du film à une évolution du personnage qui au début est une jeune fille effrayée, pleurnicharde et un peu débrouillarde. Ce film est bourré de créatures fantaisistes diverses et de lieux magiques. Inspiré sans aucun doute par tout plein d'éléments de la culture japonaise, ce film nous propose un récit qui nous semble très original et imaginatif, clairement exotique et magique. Ce film s'adresse aux enfants, peut tout à fait intéresser les adultes de par sa richesse visuelle et sa relative profondeur, mais risque peut-être d'effrayer les plus petits. Quoique les choses effrayantes se révèlent généralement pas si effrayantes, leur cas est résolu avant la fin du film. Ce film avoir un message d'ouverture d'esprit, de pousser plus loin que le premier regard, d'accepter les autres, de les aider, de ne pas avoir peur, de foncer, parmi tant d'autres choses telles que l'écologie, grandir, la tradition, le capitalisme, etc. Un très beau film pour tous, ce qui se mérite un 4. Le Royaume des chats, encore un premier film d'un nouveau réalisateur, cette fois-ci Hiroyuki Morita. Une adolescente sera amenée malgré elle dans le royaume des chats pour devenir la fiancée du prince où elle vivra quelques aventures. Son attitude de laisser aller ne l'aide pas vraiment. Elle sera aidée par le baron Humbert von Gickingen, figure chez l'antiquaire dans Si tu tends l'oreille, et ses alliés, un gros chat blanc que l'on avait rencontré aussi dans Si tu tends l'oreille, dans un rôle assez différent, et un oiseau. Mais ce film n'est aucunement une suite de Si tu tends l'oreille, très différent de ce dernier malgré le titre anglais du Royaume des chats, The Cat Returns. Le sujet du film serait d'être soi-même, mais ça semble en fait assez secondaire. Si le film est amusant et de la qualité d'animation qu'on peut attendre d'un film du studio Ghibli, le film n'a pas vraiment le même feeling. On peut supposer que les principaux créateurs du film ont eu pas mal de liberté et une sensibilité assez différente de Miyazaki et Takahata, ce qui est sans doute un bien, mais le film n'a pas non plus la profondeur et la recherche d'un Ghibli. Divertissement très sympathique, mais sans plus. Donc, 3. Le château ambulant. Une jeune femme travaillante, mais qui ne prend jamais le temps de jouir de la vie et agit pas mal en vieille fille, va se faire transformer en dame âgée par une sorcière jalouse qu'elle a rencontrée par hasard un sorcier. Elle va trouver refuge dans une étrange demeure ambulante qui appartient au sorcier qu'elle a rencontré plus tôt, où vit aussi une genre de flamme qui parle et un petit garçon. Si ce film de Miyazaki est assez peu original et traîne par moments en longueur si on le compare au précédent film du réalisateur, il est loin d'être mauvais pour autant. Ce film est très romantique, pas nécessairement juste dans un sens sentimental. Il est fort joli, amusant, avec une certaine profondeur, un merveilleux film pour toute la famille auquel je donne un 4. Les Contes de la Terre et Mer, premier film de Gorō Miyazaki, le fils d'Hayao Miyazaki. Ça se passe dans un monde magique de style médiéval, clairement de la fantasy. La magie dans ce monde serait l'utilisation des objets permis par la connaissance de leur nom véritable. Un jeune homme, qui semble cacher quelque chose de sombre, se fait protéger par un grand mage qui va lui apprendre à l'importance de l'équilibre, de n'utiliser la magie qu'en dernière mesure. Les autres personnages principaux sont une fille au passé sombre qui ne se laisse pas approcher facilement, une fermière qui les héberge et les méchants, un vendeur d'esclaves et un sorcier. Le film nous présente le style visuel et le niveau d'animation des films Ghibli, mais il en manque la profondeur et surtout le cœur. Le film ne prend jamais vraiment le temps d'approfondir les personnages, ce qui aurait pu sans doute être excusable pour un film d'action, mais ce n'en est pas un. On pourrait sans doute qualifier en quelque sorte ce film comme étant une aventure, mais le rythme est franchement très lent. Aussi, le film souffre parfois d'incohérences ou d'éléments de scénario qui semblent presque venir de nulle part. Dommage, car visuellement, c'est correct et les musiques sont excellentes. On ne s'improvise pas réalisateur de films d'animation, je suppose. Mais bon, pour un premier film d'un cinéaste qui n'a jamais fait d'animation avant, il s'en sort plutôt bien. C'est moyen, mais pas trop mal, donc un 2. Ponyo. Hayao Miyazaki nous pond un autre film pour les tout-petits, mais il n'a pas vraiment la profondeur et la richesse de Totoro. Les plus grands risquent de moins l'apprécier, mais avec un cœur d'enfant, on peut l'aimer. Il se démarque surtout de par sa beauté visuelle, notamment l'animation unique de l'eau. Le film commence par une superbe séquence d'introduction avec une magnifique représentation des fonds marins accompagnée par la très belle musique de Joe Hisaishi, le compositeur habituel des films du réalisateur. Un poisson magique devient ami avec un petit garçon qui vit en haut de la colline avec sa maman et le poisson va éventuellement vouloir devenir une petite fille. Ce film mignon tout plein est sans aucun doute trop léger et nous présente une morale écologique, entre autres, trop peu subtile. Mais c'est un bon divertissement, magnifique visuellement. Donc un 3. Arrietty, premier film de Hiromasa Yonebayashi. Comme bien des films du studio Ghibli, c'est adapté d'un roman. Mais contrairement aux autres, c'est un roman que je connaissais avant. The Borrowers de Mary Norton. Je ne l'ai jamais lu, mais j'ai vu dans mon enfance une série de télévision adaptée du même roman. Certains d'entre vous risquent peut-être plus de connaître le film américain du nom du livre avec John Goodman. Ayant vu la publicité enfant, je n'avais pas envie de voir ce film tellement il me semblait dénaturé par rapport aux souvenirs que j'avais de la série télévisée. Je l'ai vu plus récemment et n'est pas si mal, mais vraiment pas génial. Joue entre autres beaucoup trop dans la comédie. Dans toutes ces versions, on nous présente l'existence du peuple des emprunteurs, des genres d'humains minuscules, un peu comme les Lilliputiens dans les voyages de Gulliver. Ceux-ci vivent en se cachant et en volant diverses choses aux humains. Une jeune emprunteuse, Arrietty, prend sans doute trop de risques pour ses parents et va devenir amie avec un garçon qui l'a vu par accident, par inattention de sa part. Je ne me souviens pas pour la série télé ou le film live, mais ici le garçon est malade. Arrietty me semble beaucoup plus fidèle au souvenir que j'ai de la série télé que le film avec John Goodman. Dans la qualité technique des films Ghibli, avec cette fois-ci une histoire assez intéressante et bien menée, qui cadre sans doute mieux au style habituel du duo que le grand récit, si on peut le qualifier ainsi, du premier film du film de Hayao Miyazaki. Bien que le réalisateur ait été apparemment le plus jeune du studio, le fait d'avoir déjà travaillé dans l'animation doit aider à devenir un bon réalisateur de films d'animation. Gouro va peut-être s'améliorer. Il y a quelque chose de magique dans ce monde minuscule qui utilise différemment des objets qui sont géants pour eux, qui doivent se débrouiller dans un univers gigantesque. Une belle grande aventure, un certain romantisme, pas dans le sens sentimental, donc ce film se mérite un 3. La colline aux coquelicots, second film de Gorō Miyazaki, cette fois-ci avec la collaboration de son père. On y suit le début d'une relation sentimentale entre deux étudiants. Une fille qui réside et travaille dans une maison de pension et le rédacteur du journal étudiant du Quartier Libre. Le Quartier Libre est un vieux bâtiment de l'école qui semble accueillir de nombreux clubs étudiants. Il est question de le détruire et ceux qui l'utilisent avec l'aide d'autres étudiants veulent le défendre, notamment nos deux personnages principaux. L'action se déroule durant la période précédant les Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Mais le film n'est aucunement à propos des Jeux olympiques, c'est simplement un repère historique. Ce film joue clairement la fibre de la nostalgie pour ceux qui ont connu cette époque, mais va aussi certainement rejoindre les jeunes adolescents de l'âge des personnages et est certainement appréciable par tous les autres. On dirait qu'à certains moments, ce film devient un mauvais mélodrame, comme le dit un des protagonistes lui-même, mais il évite l'écueil d'y sombrer. Une belle petite histoire qui remontre que Gorō Miyazaki peut devenir un cinéaste très bien. On peut se demander ce que pourra donner son prochain film s'il peut en faire un avec plus de liberté, plus personnel, sans l'aide de son papa. Mais est-ce que cela va se produire? En tout cas, le film est un divertissement fort sympathique pour tous qui se méritent un 3. Le vent se lève. Dernier film d'Hayao Miyazaki, avant de prendre sa retraite, assez différent de ses films habituels. Pas un grand récit fantaisiste, mais un portrait réaliste de la vie d'une personne. On aurait presque plus pensé que c'est un film de Takahata, mais non, on reconnaît tout de même d'une certaine façon les traits de Miyazaki et les sujets qui le passionnent. Le film nous raconte la vie de Jiro Horikoshi, un ingénieur d'avion ayant réellement existé, qui a notamment contribué au développement d'avions pour la Seconde Guerre mondiale. On a pas mal l'impression de passer du coq à l'âne tellement les périodes de sa vie sont en général rapidement couvertes, mais bon, une vie est une longue période à couvrir. D'ailleurs, le film ne survole pas toute sa vie. Il ne commence pas à sa naissance, mais à son intérêt naissant pour la conception d'avions, alors qu'il est enfant. Il ne se termine même pas avec sa mort, mais plutôt avec la fin de la guerre, semble-t-il. Le film a une approche généralement réaliste, mais est parsemé de diverses scènes de rêves où Jiro Horikoshi rencontre un ancien grand ingénieur italien qu'on présume logiquement comme son idole. Du début à la fin, le personnage semble assez peu émotif, surtout concerné par son travail, la conception d'avion, mais justement pour lui c'est une passion. Le film passe pas mal de temps à dépeindre sa vie sentimentale à certains moments, malgré que lui et sa bien-aimée n'ont dû passer que très peu de temps ensemble, surtout si on l'échelonne sur la vie de Jiro Horikoshi. Le film est avant tout un film de passion, pas très surprenant vu la passion de Miyazaki pour l'aviation. Le choix d'engager Hideaki Anno, connu pour avoir réalisé notamment Gunbuster, Nadia le secret de l'eau bleue, Neon Genesis Evangelion et le film Cutie Honey, tous excellents, ici comme interprète de la voix du personnage principal, semble un choix intéressant pour avoir un jeu réaliste, pas exagéré comme auraient pu le faire des acteurs, peu émotif puisqu'il n'est pas acteur tout en étant une personne passionnée qui vit certainement pour son travail, qui est aussi sa passion, comme certainement Hayao Miyazaki lui-même d'ailleurs. Je ne me lancerai pas dans les débats houleux quant à savoir à quel point le film est fidèle à la réalité historique de la vie de son personnage ou sur son ambiguïté morale. Je vais simplement mentionner deux points. Un film basé sur la vie de quelqu'un ne peut, en seulement 2 heures, relater exactement sa vie et ne devrait pas avoir à le faire. Si un film est fidèle au sujet qu'il dépeint, que ce soit la vie de quelqu'un, un fait historique, un fait divers comme les fameux films d'histoire vraie ou même un roman, c'est très bien, mais ce n'est pas l'unique but recherché. Les gens qui font le film choisissent ce qu'ils vont présenter pour communiquer leurs sentiments, leurs préoccupations, souvent aussi pour divertir et dans le but de ramasser de l'argent. Ils font de l'histoire originale la leur, la manipulent pour communiquer ce qu'ils veulent communiquer. Même pour un documentaire, il n'est pas facile de représenter une réalité. Une réalité, il faut faire des choix. Le résultat sera biaisé. Il ne faut pas trop en demander d'un film de fiction. Deuxième chose, s'il est vrai que les avions ont été construits pour la guerre, qu'on peut accuser Jiro Horikoshi d'avoir participé à l'effort de guerre, le film le mentionne d'ailleurs à plusieurs reprises sans le souligner, ce n'est pas le sujet du film. Le sujet est plutôt sur la conception d'avions, la passion pour le faire, que ce pourquoi ils sont construits. C'est un choix d'Hayao Miyazaki. On peut être en accord ou non, mais débattre sur ce sujet ne changera pas la nature du film, que ce n'est pas son sujet. Ce film peut d'ailleurs être vu comme portant sur le capitalisme et le militarisme qui dénature la vraie beauté créée avec passion. Si ce film est très intéressant, fait preuve d'une grande maîtrise de beaucoup de nuances et très réussi techniquement, si on peut sans doute le qualifier du film de la maturité d'Hayao Miyazaki, aussi questionnable, certains le trouvent-ils, je dois avouer qu'en général, je n'ai pas éprouvé beaucoup d'émotions, mis à part dans certains moments de la vie sentimentale et de la rêverie, surtout vers la fin du film. Je peux donc difficilement qualifier ce film de passionnant, mais il n'est certes pas mauvais, donc je lui donne un 3. Le conte de la princesse Kaguya. Isao Takahata est sorti de sa retraite pour réaliser ce film adapté d'un conte traditionnel japonais que tout le monde connaît là-bas. Un coupeur de bambou découvre une toute petite princesse qui va se transformer en bébé après qu'il l'ait montrée à sa femme. Ceux-ci vont l'élever, mais elle va grandir très vite. Elle devient amie avec un groupe d'enfants de la forêt. Son père va ensuite décider de l'amener à la cour pour qu'elle puisse devenir une princesse digne de son rang. Elle deviendra une femme reconnue pour sa grande beauté. La princesse Kaguya, mais repoussera ses prétendants en leur demandant d'accomplir des tâches impossibles. Je n'aime pas spoiler, mais puisque ce conte est supposé être connu par le public avant de voir le film, je me dois d'en parler. Pour ceux qui préfèrent ne pas en savoir plus, vous pouvez vous boucher les oreilles en chantonnant quelques instants. La princesse Kaguya se révèle venir de la lune, et à la fin, son peuple vient la chercher et va lui donner un habit qui va lui faire oublier sa vie terrestre. Donc, si vous avez les oreilles bouchées, vous pouvez les déboucher, même si vous ne m'entendrez pas dire ça. Ce conte est habituellement accompagné, lorsqu'on le récite, par des illustrations d'enfants. Du moins, si je me fie à ce que j'ai vu dans d'autres dessins animés japonais. Sans doute suite à cette tradition, Takahata a décidé de donner au film un style illustré, en s'aidant de l'outil informatique, de lui donner des traits au crayon de couleur ou de l'aquarelle. Cela donne des couleurs magnifiques, un genre de dessin bien différent et une animation assez unique. Ce film-là me fait presque penser au film de Frédéric Bach tel que L'homme qui plantait des arbres, bien que le conte de la princesse Kaguya n'offre certes pas autant de déplacements de décors que les films de Frédéric Bach. D'une certaine manière, il me fait penser à certains des vieux films de la Toei tels que Le Serpent Blanc, Wanpaku Oji no Orochi Taiji, connu en anglais en tant que The Little Prince and the Eight-Headed Dragon, le petit prince et le dragon à huit têtes, ou Le Prince Espiègle et l'extermination du serpent géant, et bien sûr Horus Prince du Soleil. En voyant ce magnifique conte d'une grande richesse visuelle se dévoiler devant mes yeux, je me sentais retombé en enfance. J'ai de la difficulté à comprendre comment ce film a pu être déficitaire. Il a effectivement dû coûter une fortune animée, mais comment se fait-il que le public n'ait pas accouru pour voir ce film? Peut-être est-ce attribuable au fait que les Japonais connaissent déjà tous l'histoire et sont habitués de voir ce conte accompagné de ce type visuel. Mais c'est tellement beau à voir en mouvement, un tel moment merveilleux à passer, un tel ravissement, que je ne peux concevoir qu'on ne puisse pas vouloir voir ce film. Ce spectacle visuel époustouflant sera sans doute trop japonais ou enfantin pour certains, mais pour les autres, c'est un chef-d'œuvre absolu auquel je donne une note de 5. Souvenir de Marnie, second film de Hiromasa Yonebayashi, le réalisateur de Arrietty. Une fille qui a pour moment des crises de maladie et qui surtout est peu sociable, renfermée, ne semble pas aimer le contact des autres, peu émotive, se fait envoyer pour les vacances d'été chez des amis de la famille dans un petit coin perdu où elle sera attirée par une demeure mystérieuse où elle va se faire une amie en quelque sorte, Marnie. Le film peut paraître par moments un peu étrange, mais tranquillement nous obtenons quelques informations qui viennent donner un sens au film. Ce film a un côté un peu fantaisiste au final, malgré un style plutôt réaliste. Anna, le personnage principal, est bien défini avec une personnalité nuancée, travaillée et intéressante. Les petits mystères ajoutent à l'intérêt du film. Un film plutôt doux, au final assez riche en émotivité et sensibilité. Un film très bien pour tous, auquel je donne une note de 3. Hélas, jusqu'à preuve du contraire, ce sera le dernier film du studio Ghibli, en espérant que le réalisateur aura de bonnes opportunités tout de même, et, sait-on jamais, aussi improbable, ça semble devenir avec le temps qui passe, peut-être la branche production de Ghibli renaîtra de ses cendres. Il y a un projet en cours de coproduction qui implique plusieurs pays, plusieurs studios, notamment Ghibli, mais est-ce vraiment une production Ghibli? Je n'en suis pas sûr. Espérons qu'il y aura de vrais films Ghibli à venir. Sur ce, à la semaine prochaine!
À la prochaine!